Le changement climatique. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie de me donner la possibilité d'intervenir sur le rôle de la recherche. Je suis un petit peu, j'ai un peu tendance à parler de l'Union européenne, excusez-moi, mais en fait, c'est l'essentiel de mon travail. Je parle du rôle futur des forêts après les années 2020. Ces activités ont bien été décrites par Monsieur Nemitz. Je voudrais simplement ajouter que les forêts existent, mais elles sont tout à fait différentes de ce qu'elles étaient à Kyoto, pendant Kyoto, parce que Kyoto parlait de pourcentage, des mesures, de la façon de faire rapport, protocole de Kyoto. Maintenant, les choses sont ouvertes et à mon avis, toutes les parties sont libre de prendre les forêts comme elles l'entendent et je pense qu'il vous appartient à vous, en tant que groupe de travail et représentant de vos pays, de décider comment s'y prendre. Nous sommes à quelques mois de la COP21 et il faut savoir comment nous allons procéder dans nos pays, quelles sont les premières mesures à prendre. Le rôle des forêts européennes. 450 millions de tonnes des émissions, ce qui représente une partie significative des émissions européennes. Certains diront que cela n'est pas pertinent, c'est très petit, mais 10%, c'est beaucoup. Si vous prenez objectif de réduction de moins 40% pour l'Europe uniquement. Alors, dans l'accord de Paris, les dispositions sont de plus en plus pertinentes. Si vous voulez atteindre le 50% ou 60% de moins, cela est particulièrement important. Il y a environ 400 millions de tonnes pour les produits finis, les bois. Puis en outre, la biomasse représente une partie significative de l'énergie pour l'Europe. Dans certains pays, depuis des décennies, si vous maintenez un système actif de puits et que vous produisez des produits de l'énergie, cela représente toujours 10% des émissions européennes. Ici, vous n'avez pas seulement les puits dans les systèmes écologiques forestiers, mais également les produits qui compensent ces dépenses d'énergie. Alors, c'est peut-être là les chiffres principaux qui ressortent de notre étude. Sur l'axe, vous voyez les États membres qui sont des bulles avec des acronymes. Sur l'axe Y, vous avez les contributions au PIB. Pardon, sur l'axe X, vous avez la contribution au PIB et sur l'axe Y, vous avez les quantités de produits fournis. Donc, il y a une synergie entre la contribution au PIB, d'après le secteur forestier, et le maintien des puits. Très souvent, dans ces objectifs climatiques, ces discussions, le rôle de la forêt est très souvent discuté. On se demande s'il faut laisser l'arbre sur pied ou s'il faut l'abattre. Dans certains pays, certains pays sont tout à fait capables de faire cette combinaison, de contribuer au PIB et de maintenir les puits. Puis, nous voyons donc beaucoup de possibilités en renforçant cet angle qui sont à la base du fonctionnement des États jusqu'à présent. Alors, d'après les recherches, nous avons constaté que c'était la meilleure manière de procéder. Cela varie selon les pays. D'une part, nous avons des opportunités, des chances, mais d'autre part, ce sont des défis à relever. Je reprends l'Union européenne. Même à l'intérieur de l'Union européenne, la gestion varie beaucoup. L'état des ressources est très variable. Vous avez ici en différentes couleurs l'intensité d'abattage, plusieurs niveaux pour les différents pays. Les couleurs jaune et orange indiquent que l'abattage est assez proche de l'augmentation, alors en vert et en bleu, l'abattage est au-dessous de l'augmentation. Donc, il y a des ressources forestières très différentes et des possibilités différentes pour atténuer les effets du climat. Alors, si vous êtes ici dans une région à haute intensité, il faut savoir ce qu'il faut faire pour stimuler la bioéconomie, comme en Finlande ou en Suède. Si je veux produire de nouveaux produits, je dois investir dans les ressources forestières et améliorer l'ensemble du secteur et toute la chaîne, alors que dans d'autres pays au sud, si vous voulez souligner la biodiversité, le Sud est très souvent un lieu sacré pour la biodiversité en Europe. Alors, il faut conserver la nature et l'écosystème. Donc, le message n'est pas toujours uniforme. Cela dépend de l'état des ressources forestières et de leur gestion. Alors, aucun secteur à lui seul ne peut résoudre l'ensemble du problème. Chaque secteur doit prendre ses responsabilités et assumer ses obligations. Cela prendra beaucoup de temps pour produire des effets. Donc, ne vous attendez pas à des solutions rapides. Si vous prenez le marché des forêts, là, on a de nouveau la diversité à prendre en compte, par exemple, dans une zone qui a tendance à avoir des orages. Vous voudrez peut-être avoir un système écologique qui réagit mieux aux orages. Si vous avez beaucoup d'eau, vous voulez réduire le drainage et conserver autant de carbone que possible. Donc, ça dépendra des différentes zones. Ici, vous avez une petite carte avec les différentes couleurs des Pays-Bas. Chaque couleur est un propriétaire différent de forêt. En Europe, nous avons 16 millions de propriétaires privés, d'autres types de propriétaires. Thomas en a déjà parlé. Mais si la propriété des forêts est fragmentée, dans chaque région, il y a cependant un certain nombre de propriétaires communaux des forêts en bleu et en vert. Ce sont de grands propriétaires qui peuvent entraîner derrière eux les petits propriétaires. Donc, c'est une coopération entre les propriétaires qui pourra stimuler l'atténuation des effets du climat dans votre pays, dans votre région. Il est vrai que les grands propriétaires sont ceux qui peuvent donner l'élan pour la modification, les champs. Il n'y a pas grand-chose qui se soit passé depuis Kyoto. Malheureusement, on pense que la surveillance est très peu sûre. Il y a eu beaucoup de problèmes après Kyoto. On a eu l'impression qu'il y avait un risque permanent pour les puits. On a eu l'impression que l'on ne pouvait pas faire grand-chose, bien qu'il y ait eu des messages très positifs immédiatement après Kyoto, ce qui concerne par exemple l'aménagement des territoires. Mais il y a un rapport du GIEC sur l'estimation des atténuations qui parlait de 2 gigatonnes par année, alors que maintenant nous en sommes dans les chiffres rouges pour ce qui est des émissions de carbone. Alors, les recherches n'ont pas toujours été utiles dans cette discussion. Naturellement, les recherches doivent être indépendantes, elles doivent nous donner une perspective, mais la variété des résultats, des différentes mesures, ne nous ont pas beaucoup aidés après Kyoto.
Research. Well, I think without it, the parties.
La recherche.
Elle est indispensable. Sans cette recherche, notre groupe serait dans la plus totale obscurité. Nous devons rester indépendants et faire ce qui est possible. Ensuite, exploiter le potentiel régional des secteurs des forêts et développer donc dans la perspective du climat ces forêts. Nous devons donner aux États membres des outils pour leurs évaluations nationales, pour également évaluer, calculer leurs émissions de carbone. Et ces outils et évaluations doivent être davantage développés. Je crois que le groupe de travail aura besoin de davantage de données fiables et de qualité. Dernière image, le rôle de cette recherche. Quel est le rôle de la bioéconomie et d'autre part notre rôle qui consiste à réduire l'effet du climat, du changement climatique. Est-ce que nous avons atteint les limites de nos capacités? Ensuite, le rôle et le coût de la biomasse. Autre point important, les effets socio-économiques, quelles sont les répercussions du prix du carbone dans le secteur des forêts et les mesures déjà prises sont-elles réellement efficaces? Donc également, du côté des politiques, il y a encore pas mal à faire. Voilà, mais pour ce qui est de notre groupe,